Off the record.
À l'heure de la fonte des banquises, quelle drôle d'idée de gérer un label nommé Igloo Records. C'est pourtant ce qu'ont fait, bien avant le réchauffement climatique, deux jeunes fans de jazz. C'était en 1978, alors que le punk pelait déjà tout sur son passage, et c'est cette histoire évidemment belge que va nous raconter aujourd'hui Daniel Sotio, cofondateur d'Igloo, dans ce nouvel épisode d'Off the Record, une série podcast proposée par la Fédération des labels indépendants francophones. Off the record. L'invité du jour, c'est donc Daniel Sotio, et en bon amoureux du jazz, on va tout de suite tenter de comprendre comment il a su improviser cette carrière où l'on croise aussi bien Chet Baker que Philippe Catherine et quelques autres. Moteur, ça tourne. Bonjour Daniel, merci de nous accorder de ton temps précieux d'être avec nous en studio aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Off the Record. Alors, la coutume veut que le journaliste présente mal le label dont il est question. Et je pense que c'est peut-être plus intéressant de te donner la parole en premier pour essayer de nous résumer en quelques lignes ce qu'est Igloo. Et après, bien sûr, on rentrera dans le détail.
Bah, Igloo est un label que j'ai créé en 1978. À l'époque, nous étions dans un contexte où pratiquement il y avait les grandes structures de production et de l'autoproduction. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il valait mieux avoir une structure plus professionnelle qui serait entre les grands producteurs internationaux ou nationaux et l'autoproduction qui souvent restait dans un cocon fermé. Voilà, ça c'était l'objectif en 78. Il n'a pas fondamentalement varié. Il n'a pas fondamentalement varié parce que le contexte est resté plus ou moins le même. Les structures internationales sont toujours là et le besoin d'aider, d'accompagner des productions locales en faisant ça de façon la plus professionnelle possible, ça reste toujours un objectif tout à fait valable et tout à fait important.
J'ai cru voir que l'histoire d'Igloo, en fait, commence pas en 78, mais elle commence presque 10 ans plus tôt avec la création d'un fanzine.
Igloo a été choisi par le fanzine d'abord et puis après. C'est un petit acte surréaliste. Hein. C'est un jeu qui nous a permis de découvrir presque par hasard ce mot. Et on s'est dit, oui, banco, allons-y. Et puis en même temps, ça a des significations. Quand on lance le label, ben, Igloo, c'est aussi un lieu de protection. C'est un lieu qui nous met en dehors de l'extérieur, qui peut être dangereux. Et là, on est dans un cocon. On est aussi dans un endroit chaud, dans le paradoxe d'un monde qui peut être froid et cruel. On se protège, on se met ensemble, on crée des communautés à l'intérieur de l'Igloo, et ça nous plaisait bien.
Il se trouve que la majorité des labels belges ont une histoire atypique pour plein de raisons. Je pense à Crammed, je pense effectivement aussi à Igloo. Sachant que votre histoire est historiquement associée au jazz, on va en parler après, mais lorsqu'on reprend en fait les premières références, notamment votre première signature en 78, je tombe sur un certain Jean-Paul Ganty.
Oui, oui.
Et votre deuxième sortie, c'est Arthur Petronio.
Oui.
Quand on écoute ces deux sorties, on est très très loin du jazz quand même. On est plutôt du côté de la musique concrète ou musique expérimentale.
Tout à fait, mais l'objectif était bien celui-là au départ. On était vraiment dans la marge de la marge. La musique contemporaine, la musique expérimentale. J'avais monté à l'Université libre de Bruxelles un festival qui s'appelait Anthrax et qui rassemblait en théâtre, en performance, en musique contemporaine, avec des gens comme Gavin Bryars, par exemple, un festival de 3 jours avec toutes les formes expérimentales et de recherche que nous pouvions rassembler à l'époque. Donc on est dans cette voie-là. Et quand vous citez le nom de Jean-Paul Ganty, ben oui, Jean-Paul Ganty est un ami, un récitant, ce qui ne se fait plus beaucoup aujourd'hui, quelqu'un qui a un talent extraordinaire pour donner de la vie au texte et au poème, et c'est un peu à cause, dans le sens latin du terme, c'est-à-dire un datif d'avantage, c'est grâce à Jean-Paul que Igloo se met en place, puisqu'un jour, passant une soirée fort agréable, il me dit, enfin, ça fait longtemps que je me dis que je devrais mettre sur un support enregistré le travail que je fais. Bon, ben, je vois pas quelle porte, c'est les sociétés qui existent, ça les intéresse pas vraiment, ce genre de choses. Et on a dit, banco, allez, on va le faire, ce disque. Et c'est pour ce disque-là, pour cet enregistrement-là, que nous mettons en place le projet. Mais avec un paradoxe, et un paradoxe que je ne peux pas expliquer. Le paradoxe, c'est que comme c'est un one-shot au départ, on va faire le disque d'un récitant Jean-Paul Ganty, pourquoi d'emblée nous décidons de créer une ASBL, de mettre en place une structure? Comme si inconsciemment on avait déjà l'idée qu'il y aurait des suites. Les 15 premières références sont à peu près de cet ordre-là. Et donc la partie jazz que vous évoquiez à l'instant intervient progressivement et surtout au moment où il y aura une fusion que nous allons provoquer, parce qu'à l'époque, l'association qui s'appelle les Lundis d'Hortense, qui regroupe tous les musiciens de jazz, avait suscité, c'est pas vraiment les Lundis d'Hortense, suscité la création d'une autre structure qui s'est appelée LDH, pour Lundis d'Hortense, mais sans parler en toutes lettres des Lundis d'Hortense, pour faire des disques de jazz. Il y a Jean-Louis Racinfosse, qui est l'animateur de cela, avec Daniel Léon, Christine Jotard et d'autres. Et à un moment donné, Jean-Louis me dit « Écoute, toi, tu as déjà maintenant une dizaine de références, tu commences à connaître un petit peu comment fonctionne le monde de l'enregistrement et sa diffusion. Nous, on tâtonne, on est des musiciens, on ne sait pas faire nécessairement. Est-ce que ça t'intéresserait de reprendre LDH ? Ce qu'on va faire. Et à ce moment-là, la voix jazz va prendre beaucoup plus d'importance jusqu'à couvrir à peu près tout le champ. À peu près parce qu'il y a un autre événement quelques années plus tard, là on se situe tout début des années 80, donc 2-3 ans après la création effective d'Igloo, il y a une autre structure, on a beaucoup de structures à l'époque, qui est mise en place par Jean-Pierre Hubert, qui est échevin de la culture à la Louvière. Et Jean-Pierre Hubert, lui, est passionné de chansons françaises, et se dit qu'il doit faire quelque chose dans ce secteur. Il met en place un festival qui s'est appelé Franck Amour, et sur base de ça, se crée la SOAREX, la Société Wallonne de Recherche et d'Expansion des Supports Sonores et leur diffusion.
C'est un bel acronyme, ça.
C'est un lourd acronyme, mais il fait quelque chose qui est assez exceptionnel à l'époque, c'est qu'il met autour de la table beaucoup d'interlocuteurs qui n'avaient pas l'habitude de dialoguer. Ainsi, tous les directeurs des centres de production de la RTBF sont membres en tant que tels, pas dans le dialogue. Ils sont vraiment autour de la table, dans la SBL. Et l'idée, c'est vraiment que cette structure aide la diffusion de la chanson en français qui n'était pas, disons, suffisamment, aux yeux de ceux qui s'étaient rassemblés, diffusée. Jean-Pierre développe ça. Il développe quelque temps après un label consacré à la chanson française, Franck Amour. Mais voilà que, milieu des années 80, Jean-Pierre, qui est tout jeune et qui est directeur du Botanique à ce moment-là, décède. Et là se pose la question de qu'est-ce que va devenir cette structure SOAREX d'une part, Lundis d'Hortense d'autre part. Moi, j'ai la structure Igloo, qui est un peu plus vieille de 2-3 ans. Et Jean-Pierre m'avait coopté dans les deux autres. Et finalement, on fait le rassemblement de tout ça pour créer une et une seule structure. Ce qui veut dire qu'après la fusion avec LDH, qu'on évoquait tout à l'heure, on a l'absorption de fait de Franck Amour et de la SOAREX, d'où il y a tout le champ chanson française qui est développé.
Est-ce que c'est l'inconscient qui vous porte d'un point de vue artistique à ce moment-là, ou c'est simplement l'amour de ces musiques-là ?
Oui, incontestablement. Il y a l'amour de ces musiques-là, mais il y a un paradoxe dans votre question, c'est qu'il est beaucoup plus simple de vendre 500 ou 1000 exemplaires d'un disque très très pointu, très expérimental, très recherché, plutôt qu'un produit mainstream. Parce que là, on ne s'adresse pas à la même clientèle ou au même public. Les premiers disques qu'on évoquait tout à l'heure, très, très expérimentaux. Je prends par exemple l'exemple de Benelorgueul, que vous n'avez pas cité, qui est un disque assez fou quand on y réfléchit, puisque c'est une machine qui est enregistrée pendant 40 minutes, qui produit des sons aléatoires sous forme de sonneries qui se déclenchent sans logique apparente. Ce disque-là, il s'est vendu en très peu de temps, aussi bien en Chine, au Japon, en Australie, etc. Parce que le micro-public intéressé par cela, il est réparti dans le monde et est très connecté. Et donc apprend assez vite les choses. Par contre, si on fait un disque de chansons, et on en a fait beaucoup, là on se heurte d'emblée à des centaines de concurrents qui sont en gros sur le même registre. Donc la difficulté est beaucoup plus grande. Donc il ne faut pas croire que le pointu est plus compliqué.
Tu citais tout à l'heure Gavin Bryars,
oui.
Magnifique compositeur musique contemporaine. Je pense au label sur lequel il a fait ses débuts, à savoir Obscure Records,
oui,
de Brian Eno. Est-ce que Obscure a été une source d'inspiration ? Est-ce que d'autres labels...
Non, bien sûr. Obscure est évident. Il y a un autre label, c'est ce que Marc Moulin a fait à un moment donné. Il a aussi eu pendant... un peu moins de références qu'Obscure, je crois que c'est 4-5, pas plus, mais il a fait des choses extraordinaires à ce moment-là, évidentes d'inspiration. Donc j'étais en phase avec tous ces gens, je les connaissais bien, hein, donc il y avait d'évidents rapports entre nous. Et puis alors, en communauté française de Belgique, il y a le label de Guy Marquignan, qui va être créé quelques temps après, et qui va aussi s'orienter dans cette voie-là. Voilà, on est quelques-uns à embrasser ça. Mais du côté d'Igloo, le paradoxe, alors que c'est nos fondamentaux du départ, on va plus s'orienter sur jazz, chanson, musique du monde, avec aussi, à un moment donné, musique contemporaine classique, mais là, très peu de références, parce que la personne qui s'en occupait au sein de l'association est aussi décédé, et donc il n'y a pas eu de relais après.
Quel est ton travail au quotidien chez Igloo ? Et quand je dis au quotidien, c'est un quotidien depuis 45 ans. As-tu l'impression que ce métier a changé ?
Mon quotidien, il a fortement évolué parce qu'au départ, je suis tout seul, en gros. Donc on fait tout. Et aujourd'hui, voilà, moi, il y a une équipe. Et donc je ne suis pas dans l'équipe permanente. Il y a des gens qui sont salariés pour travailler et développer le label. Et moi, je le préside toujours comme je l'ai présidé depuis sa création, avec une éclipse de quelques années, puisque j'avais un autre métier, un métier réel, qui n'était pas celui d'un militant amoureux de la culture et de la musique. Et ce métier-là fait que je n'étais pas en Belgique, et donc et quelqu'un d'autre a pris le relais, parce qu'on ne peut pas gérer quand on est en Afrique ou en Amérique du Nord, à distance, un label comme ça.
Tu étais diplomate ?
Voilà.
Parcours atypique de passer de faire ses débuts dans un fanzine, de passer producteur et patron de label et devenir diplomate. C'est pas un parcours forcément traditionnel, on va dire.
Non, il n'est peut-être pas traditionnel, mais moi, il ne me paraissait pas étrange. Ce qui m'a paru, en tout cas, une évidence pour moi, c'est que je ne voulais pas, dans les activités culturelles que je créer, développer ou dans laquelle je m'investissais, être rémunéré par elle. Je voulais rester libre et indépendant à titre personnel, travailler aux mises en condition des choses, pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait des moyens budgétaires, que ça se développe. Mais je voulais rester en dehors du quotidien.
Et ça, c'est une volonté depuis le départ.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'il y avait deux voies possibles. Et on sait bien que dans l'effervescence des années 70, fin des années 70, début des années 80, quand en Belgique francophone et en Belgique tout court d'ailleurs, se créent des dizaines, des centaines d'associations qui ont un remue-ménage absolu où il y a plein d'initiatives, il y a deux voies qui sont suivies. Des gens qui créer quelque chose et décide de s'investir, d'en faire le métier et d'espérer en vivre le mieux possible. Et il y en a qui vont rester plutôt du côté de l'administration, de la gestion bénévole et mettre en place les conditions pour que se développe l'outil auquel ils pensent et auquel ils rêvent. Moi, j'ai choisi clairement la deuxième voie.
As-tu souvenir d'un disque qui a été un peu le game changer, celui qui a permis au label de trouver une sérénité financière, si tant est que ça puisse être possible ?
Non, il n'y a pas de sérénité financière, ça, il ne faut pas se tromper, hein, ça n'existe pas. Il y a des moments où, effectivement, il y a, dans le passé, des grands succès. C'est vrai que quand on publie le premier disque de Morane, bon, c'est un succès. Les disques de William Dunker, ce sont des succès importants, des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est extraordinaire quand on y réfléchit à l'aune de ce que l'on vit aujourd'hui dans le domaine de la production discographique. Je viens de citer deux qui sont plutôt dans la voix de la chanson, en wallon ou en français, en jazz, des disques comme l'historique Chet Baker, Philippe Catherine, le premier disque de Mélanie Di Biasio, et d'autres. Mais là, ce sont des pépites qui, effectivement, donnent des éclairages et aussi des moyens auxquels on ne songe plus aujourd'hui, vu le contexte dans lequel on travaille.
D'où vient cette envie de toujours continuer ? C'est une question qui est intéressante, qu'on a 45 ans derrière soi de vie discographique. Qu'est-ce qui fait qu'on continue malgré tout ?
Mais parce qu'il y a des artistes, tout simplement. Pourquoi chercher plus compliqué que ça ? C'est-à-dire que nous avons un pays, une communauté, avec des talents incroyables. Mais vraiment incroyables. Et alors, particulièrement dans le domaine du jazz, ils ont trouvé à chaque époque un moyen de renouvellement. Quand je vois le nombre d'artistes qui existaient il y a 30-40 ans, puisqu'on parle d'une vieille histoire, et ce qu'on a aujourd'hui comme monde artistique autour de nous, on a une multiplication avec des gens de mieux en mieux formés, qui n'existaient pas de classe d'improvisation, de classe de jazz dans les conservatoires à l'époque. Maintenant, ça existe. Et avec des profs de premier plan qui forment des gens de très, très, très grands talents. Donc, tant qu'il y aura des talents, pourquoi s'arrêter ? Maintenant, la chance, et ça, il faut être clair dessus, c'est que comme il y a ce bac catalogue, comme il y a cette historicité, le branding du label est tel qu'à la fois, il intéresse les jeunes talents, et à la fois, quand on apporte un nouveau disque d'un jeune talent, il y a un regard immédiat de la part des médias, des journalistes, des directeurs, programmateurs de festivals et de lieux, qui dit « Ah, ça vient de chez Igloo, parce que c'est une référence qui est connue. » Et ça, c'est un plus que nous apportons grâce à l'historicité.
Still too early, all the eyes are on me. Still too early, all the eyes are on me. Too early to go. Bye.
L'indépendance pour un label comme Igloo, elle passe par quoi ?
Par ses choix. Ils ne sont dictés par rien d'autre que le coup de cœur et l'envie de faire ce projet-là.
Comment, aujourd'hui, Igloo continue d'avancer ? C'est uniquement le bac catalogue qui permet d'avoir cette indépendance ou...
Non, bien sûr que non. Depuis à peu près la moitié des années 80, nous avons des subventions du ministère. On les a cherchées, on les a mises en place. Je dirais même que le ministère a évolué dans son regard sur la production discographique, notamment à cause de ce que nous apportions comme réflexion. Parce que quand, de nouveau, fin des années 70, je ressasse l'histoire, on va dire, voilà, on fait cela au ministère, aux fonctionnaires. Ils regardent en disant, ben, enfin, ça n'existe pas, ça, ce n'est pas, ça fait pas partie de notre champ de travail. Il fallait d'ailleurs imaginer qu'il n'y avait personne qui s'occupait du jazz, de la chanson française, du rock. Il y avait un fonctionnaire qui était en charge des musiques dites sérieuses, c'est-à-dire la musique classique et la musique contemporaine. Donc, il y a une histoire en parallèle, quelque part. On était interlocuteurs et on a dit, on a fait, on a mis en place un certain nombre de choses qui ont aussi fait passer les messages au sein du ministère. Maintenant, il est indéniable que cette manière de dialoguer avec le ministère, qui a été très riche, très féconde, avec des fonctionnaires qui étaient à l'écoute et très intéressés et intéressants, a aussi créé, à un moment donné, une image d'Igloo comme label institutionnel. Et il y a eu même des articles dans la presse quotidienne bruxelloise, en disant, en nous critiquant là-dessus, en disant « vous n'êtes pas assez indépendant, quelque part, vous devriez être uniquement dans la confrontation avec le marché, c'est le marché, in fine, qui est le seul juge ». Moi, je ne crois pas que ça soit aussi radical, les choses. D'abord, on n'a jamais été l'officine du ministère. L'indépendance dans les choix était réelle, a toujours été réelle et était totale. Parfois, certains ministres ont souhaité qu'il y ait un lien plus fort entre le ministère et nous, en déléguant, par exemple, quelqu'un au sein des instances, mais ça n'a jamais été traduit en réalité. Parce que, justement, les fonctionnaires qui étaient en charge du dossier disaient « Non, il faut rester dans la découpe. Vous faites votre boulot, vous avez votre indépendance, vous faites vos choix, et nous, on regarde a posteriori si ça correspond ou non à la politique que nous voulons mener. » Donc ça a été toujours extrêmement respecté. Mais ce danger a existé. Il était réel. Il était réel.
On a sous les yeux le livre qui est sorti en 2020, Igloo Records en 40 mouvements, pour fêter les 40 ans du label, voilà quelques années. En 2028, Igloo aura potentiellement 50 ans. Comment toi tu vois cet anniversaire probable, en tout cas comment tu vois ce temps à venir pour le label ?
Lors des 40 ans, j'ai dit que dans la magie des nombres, le chiffre 40 a une signification particulière qui est celui du renouveau. D'où d'ailleurs dans les langages populaires, les mises en quarantaine qui guérissent le corps ou la réflexion dans le désert d'autres qui ont besoin de 40 jours pour arriver à d'autres formes d'illumination, dirons-nous. On doit réussir notre transformation dans un monde qui nous échappe. Et l'objectif, c'est de se dire... réussissons pour être là dans 40 ans. 50 ans ne me fait pas plus peur que ça, c'est moins symbolique pour moi, paradoxalement. C'est peut-être plus rond, c'est peut-être un chiffre plus important, mais 40 ans avait cette connotation particulière, d'autant plus, on y revient toujours, que ça correspondait à des modifications totales du contexte socio-économique dans lequel vit la musique en général, et celle que l'on promeut en particulier. Pour l'instant, on est en train de voir, on vit tous les jours, que les conditions empirent. Nous avons cru tout un temps qu'à côté du support sonore, par les concerts, par les festivals, on aurait une compensation, en quelque sorte, du manque de recettes qui viendrait, et qui vient, le conditionnel ne s'y est pas ici, qui manque de recettes suite à la dématérialisation. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Au contraire, alors, tous les jours, il y a un artiste igloo qui joue quelque part. Ben, ce n'est pas un problème. On a des centaines de concerts. Les artistes que nous avons ont des centaines de concerts. Mais en même temps, j'entends de la part des gens qui font la programmation, « Oui, mais attendez, hein, votre musique, elle est quand même fort difficile. Oui, mais attendez, notre public attend autre chose. » Alors, c'est très bien de respecter les goûts du public, tout à fait. On travaille pour un public, un artiste produit pour un public. Mais en même temps, les médiateurs, ceux qui sont entre le public et la création, sont là pour pousser un peu plus loin, pour faire découvrir des choses. Mmh. Ce n'est pas nécessairement les tendances qui sont prises aujourd'hui. Ce n'est pas les tendances dans les festivals. En Belgique et à l'étranger. Et donc, je crains fort que cette machine de restriction soit en route, pas seulement sur les supports sonores et sur la vente publique, mais sur tout le champ de l'écosystème de l'économie musicale.
Il nous reste une question, c'est la question gimmick. L'émission s'appelle Off the Record, donc, qui se traduit par confession sur l'oreiller en petit anglais. Y aurait-il quelque chose dont tu n'aurais jamais parlé dans aucune interview que tu pourrais nous confesser aujourd'hui ? Un secret, Igloo, un secret Daniel Sotio, que le label serait fait par des robots depuis 1978.
Par des robots ?
Non, je plaisante. Mais...
Oui, pourquoi pas, oui. Je serais un cyborg.
Ça expliquerait aussi la longévité. Hein.
Mais c'est marrant que tu dises longévité. Parce que c'est la deuxième ou troisième fois que tu utilises cette temporalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains, le temps long est un temps suspect. Et ça, c'est assez étonnant. Comme si cette espèce de jeunisme permanent dans lequel on nous baigne était la voie sacrée qu'il faut aujourd'hui. On fait quelque chose, allez, on passe à autre chose. On bypass. Il faut tourner la page. Et c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Et peut-être que, si ce n'est pas un secret, ça, c'est en tout cas une conviction. Beaucoup de choses me pousseraient à dire, voilà, il faut maintenant tourner la page. Je ne parle pas de celle d'Igloo. Il y a des gens merveilleux, l'équipe est très chouette, etc. Donc vraiment, là, ils continueront. Mais la question, c'est, est-ce qu'il faut que je tourne la page ?
Merci Daniel pour ce témoignage et longue vie à Igloo. Et on se revoit dans
40 ans.